Mesdames, messieurs, nous sommes heureux de vous retrouver pour Elle aimait le monde aujourd'hui. 30 minutes d'actualité sur VOA Afrique. Voici les informations essentielles de ce matin. Burkina Faso, le président nomme un gouvernement 2 jours après la dissolution du précédent. John Dramani Mahama, élu président du Ghana. Un retour historique à la tête du pays. Bombardement à Khartoum au Soudan, 28 civils tués, 37 blessés dans une station-service. Joe Biden salue la chute de Bachar al-Assad en Syrie, mais met en garde contre des groupes rebelles. Aquaculture au Cameroun, quelle solution pour surmonter les défis de financement freinant la production locale de poissons?
Sincèrement, nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Nous n'avons pas d'appui, nous n'avons pas de financement. Chacun a ses pisciculteurs. Ils s'envolent de ses propres ailes. Si sincèrement nous étions financés aussi, comme d'autres pisciculteurs d'ici, je crois que nous relèverons le défi.
La réponse dans nos dossiers du jour. En sport handball féminin, l'Angola décroche sa 5e Coupe d'Afrique consécutive. On n'oublie pas la Minute Éco, mais d'abord le journal. Au Burkina Faso, le président Ibrahim Traoré a formé ce dimanche un nouveau gouvernement 2 jours après la dissolution de l'ancien. Le premier ministre Apollinaire Joachim Kilem de Tambela a été démis de ses fonctions sans explication. Le nouveau gouvernement compte 24 membres avec Rim Talba Jean-Emmanuel Ouédraogo, ancien ministre de la Communication, nommé premier ministre. Peu de changements ont eu lieu à l'exception de certains remplacements, notamment au ministère de l'Action humanitaire et au ministère de la Défense. Ce gouvernement reste dominé par des militaires, bien que la majorité des ministres soient des civils. Les Ghanéens ont élu le candidat de l'opposition John Dramani Mahama comme nouveau président au terme de la présidentielle de samedi. Le candidat du parti au pouvoir a reconnu sa défaite dans ce pays d'Afrique de l'Ouest fidèle à sa tradition d'alternance politique. Le point avec Mohamed Oufa.
Les autorités électorales n'avaient pas encore annoncé les résultats officiels quand le vice-président ghanéen Mahamudu Bawumia, candidat du NPP, New Patriotic Party, au pouvoir, a déclaré dimanche qu'il reconnaissait sa défaite, précisant avoir appelé M. Mahama pour le féliciter. Le peuple ghanéen s'est exprimé, il a voté pour le changement et nous le respectons en toute humilité, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse dimanche matin à Accra, la capitale. Sur son compte X, M. Mahama, qui succédera à Nana Akufo-Addo, qui achève son second mandat, a confirmé avoir reçu l'appel de félicitations de M. Bawumia. La victoire de John Mahama, âgé de 66 ans, marque un retour. La victoire de John Mahama, âgé de 66 ans, marque un retour historique, faisant de lui le premier président de la 4e République du Ghana à reprendre la présidence après un premier mandat de 2012 à 2017.
Au Soudan, au moins 28 civils ont été tués et 37 blessés dimanche dans un bombardement d'une station-service à Khartoum. L'armée du général Abdel Fattah al-Burhan tente de reprendre le contrôle de la capitale, largement aux mains des paramilitaires des forces de soutien rapide. Plus d'infos avec Gaby Dorsil.
La station-service se trouve près de marché du sud de Khartoum, un secteur visé par les tirs intenses de l'armée ces dernières semaines, selon le réseau des cellules d'intervention d'urgence qui aident les habitants. 28 personnes ont péri, 37 ont été blessées et 9 des corps ont été remis à leur famille, a déclaré la même source. Ces derniers mois, l'armée soudanaise a avancé vers Khartoum depuis la ville voisine d'Omdurman pour tenter de reprendre le contrôle de la capitale. Fin novembre, l'armée soudanaise a déclaré avoir repris une capitale clé de l'état de Sennar au sud de Khartoum aux paramilitaires qui la détenaient depuis 5 mois. La capitale Sinjar est un enjeu stratégique car elle se trouve sur une route clé reliant les zones contrôlées par l'armée dans l'est et le centre du Soudan. Pour leur part, les forces de soutien rapide ont pris le contrôle de la quasi-totalité de la vaste région occidentale du Darfour et ont progressé jusqu'aux régions du sud-est contrôlées par l'armée. La guerre a fait des dizaines de milliers de morts, déplacé plus de 11 millions de personnes et provoqué l'une des pires crises humanitaires de l'histoire récente, selon l'ONU.
Les autorités camerounaises ont interdit les activités de 5 ONG accusées de financement illicite, notamment liées au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme. L'interdiction touche 2 entités du réseau d'organisation de défense des droits de l'homme en Afrique centrale, RUDAC, ainsi que LM, Nandié Foundation, Richard Cameron et l'association charitable socioculturelle du Cameroun. Ces ONG auraient reçu environ 16 milliards de francs CFA en 2 ans, des fonds jugés disproportionnés par rapport à leurs activités. Les responsables des ONG ont rejeté ces accusations, les qualifiant de graves et infondées.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky assure vouloir une paix durable pour son pays au lendemain d'un entretien à Paris avec le président américain élu Donald Trump. Ce dernier a assuré de son côté que Kiev devait s'attendre probablement à moins d'aide américaine après sa prise de fonction. Les précisions avec John Lindon.
Donald Trump a appelé à un cessez-le-feu immédiat et à des négociations pour mettre fin à la guerre entre l'Ukraine et la Russie, après avoir critiqué à de nombreuses reprises par le passé le versement de plusieurs dizaines de milliards de dollars en soutien à Kiev. Dans un entretien diffusé dimanche sur NBC News, répondant à la question de savoir si l'Ukraine devait se préparer à une diminution de l'aide des États-Unis lorsqu'il prendra ses fonctions le 20 janvier, il a répondu « oui, probablement, bien sûr ». M. Zelensky a longtemps été catégoriquement opposé à toute concession à Vladimir Poutine, mais a adouci cette position ces derniers mois face aux difficultés de son armée sur le front et aux craintes d'un affaiblissement de l'aide occidentale. Il a notamment émis l'idée que l'Ukraine renonce temporairement à récupérer les territoires contrôlés par la Russie en échange de garanties de sécurité de la part de l'OTAN et de livraison d'armements occidentaux. Le Kremlin a de son côté accusé dimanche Zelensky de refuser toujours de négocier tout en appelant le président ukrainien à faire face aux réalités sur le terrain où les forces russes avancent sur le front Est depuis le début de l'année malgré une incursion ukrainienne en territoire russe cet été.
Le président américain Joe Biden a salué dimanche la chute du pouvoir en Syrie de Bachar al-Assad en affirmant qu'elle représentait une opportunité historique pour les Syriens. Il a tout de même averti contre les risques et l'incertitude qui découlent de la situation, davantage avec Michel Joseph.
Enfin, le régime d'al-Assad est tombé, a déclaré Joe Biden lors d'une allocution à la Maison-Blanche, évoquant un acte fondamental de justice et une opportunité historique pour les Syriens de construire un avenir meilleur. Le président américain a estimé que Bachar al-Assad devrait rendre des comptes pour les centaines de milliers de Syriens innocents qui ont été maltraités, torturés et tués. M. Biden a néanmoins averti que certains des groupes rebelles ayant participé à l'offensive avaient des antécédents de terrorisme et de violation des droits humains. « Nous avons pris note des déclarations des dirigeants de ces groupes rebelles ces derniers jours et ils disent ce qu'il faut en ce moment. » Mais alors qu'ils apprennent à prendre de plus grandes responsabilités, nous allons évaluer non seulement leurs mots, mais aussi leurs actes, a prévenu le président américain. Le 27 novembre, une coalition de rebelles menée par le groupe islamiste radical Hayat Tahrir al-Sham d'Abdou Mohamed Jolani a lancé une offensive à partir de son fief à Idlib. En quelques jours, devant l'effondrement des forces gouvernementales, les rebelles ont conquis de vastes territoires et les grandes villes d'Alep, de Hama, avant de s'emparer samedi de Homs, puis d'entrer à Damas. Au moins 910 personnes, dont 138 civils, ont été tuées pendant l'offensive rebelle, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme.
En Corée du Sud, l'opposition accuse le parti au pouvoir d'organiser un deuxième coup d'État en refusant de destituer le président Yoon Suk-yeol après l'échec d'une motion de destitution au Parlement. Cette motion visait le président pour avoir proclamé une loi martiale qu'il a dû abroger 6 heures plus tard sous la pression publique et parlementaire. Le PPP au pouvoir a boycotté le vote, empêchant son adoption et a obtenu de Yon la promesse de se retirer, laissant la gouvernance au PPP et au Premier ministre. C'est tout pour les nouvelles. Vous suivez le journal sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique à présent avec Nathalie Barge.
Au Cameroun, la direction des douanes a collecté 291,6 milliards de francs CFA entre 2020 et 2024 pour les collectivités locales décentralisées. Les fonds ont été récoltés grâce aux taxes municipales additionnelles et aux droits d'accise sur les déchets. Ces droits qui financent la collecte et le traitement des déchets pour les collectivités locales ont été introduits en 2019 au taux de 0,5% et portés à 1% en 2022. Selon la Banque mondiale, les pays en développement ont payé 1400 milliards de dollars dans le cadre du service de la dette extérieure en 2023. Les taux d'intérêt se sont envolés jusqu'à 6%, ce qui a fait bondir les paiements d'intérêt à 406 milliards. Certains pays ont vu leurs coûts d'intérêt quadrupler en une décennie, atteignant plus de 34 milliards de dollars. Les créanciers privés ont perçu 13 milliards de plus qu'ils n'ont prêté.
Rendons-nous maintenant sur le terrain. Voici les principaux résultats et analyses des grandes compétitions sportives dans cette rubrique signée Élisée Oukpadin. Bonjour Élisée, bonjour à tous.
Bonjour Nanit et bonjour à tous.
On commence par le football avec la deuxième journée des matchs de poule des interclubs de la CAF.
Oui, et en Ligue des Champions, les Soudanais d'Al Hilal enchaînent une seconde victoire après avoir battu 2-1 le TP Mazembe. Le club d'Omdurman est seul en tête du groupe A avec 6 points, 2 de plus que le MC Alger, victorieux 2-0 des Tanzaniens de Yanga. Au niveau de la poule D, l'Espérance de Tunis et Pyramide d'Égypte n'ont pas pu faire la différence puisque accrochés 0-0 respectivement par les Angolais de Sagrada Esperanza et les Maliens du Djoliba.
Le tenant du titre accroché dans le groupe C.
Le National Al Ahly du Caire concède le nul 0-0 à Johannesburg devant Orlando Pirates. Les deux clubs partagent la tête du groupe avec 4 points, suivis des Algériens du Sierra Belouizdad, tombant 1-0 des Ivoiriens du Stade d'Abidjan. Le groupe B est dominé par les Marocains de l'ASFA malgré le nul 1-1 face aux Sud-Africains de Mamelodi Sundowns. Même score entre Manima Union et le Raja de Casablanca.
On jouait aussi la deuxième journée en Coupe de la Confédération.
Et deuxième victoire de suite pour les Algériens de Constantine qui ont eu raison des Tanzaniens de Simba Sports, score 2-1. Deuxième succès en deux matchs également pour la Renaissance de Berkane, 3-1 en Afrique du Sud aux dépens de Stellenbosch. Pour le reste, rien que des matchs nuls dans le groupe D, 2-2 entre Enimba et Zamalek et 1-1 entre Black Bull et Al Masry. Et puis, dans la poule C, 0-0, c'est le score qui a sanctionné les deux matchs chez Arabes de Dakar, USM Alger et au Rapa United à Sec d'Abidjan.
Le handball à présent et l'Angola toujours reine d'Afrique.
Les Angolaises ont remporté leur 5e Coupe d'Afrique des Nations consécutives, la 16e de leur histoire en 26 éditions après avoir battu le Sénégal en finale à Kinshasa 27-18. Comme des reines, elles ont écrasé le tournoi sans perdre le moindre match. La Tunisie finit 3e après avoir remporté le match de classement suite à son succès 25-22 sur l'Égypte.
Pour terminer, Élisée, autre compétition féminine, la Ligue africaine de basketball. La phase finale se déroule actuellement à Dakar, au Sénégal.
Formule similaire à celle de la balle chez les hommes. 12 clubs sont repartis dans 3 groupes de 4 et après la deuxième journée, la SCB de Dakar partage la première place du groupe A avec Al Ahly d'Égypte après leur succès respectif 81-50 face aux Nigérians de MFM et 89-63 contre les Camerounaises de FAPO. Dans la poule B, FBA de la Côte d'Ivoire et CNSS de la RDC se sont repris de leur défaite inaugurale en battant respectivement APR du Rwanda 63-55 et Sporting Alessandrine d'Égypte, le double tenant du titre 61-59. Deux matchs au programme aujourd'hui dans la poule C. Chandak du Sénégal, Ferroviaro de Mozambique et Rwanda Energy Group ASB du Congo. À noter que les deux premiers de chaque groupe ainsi que les deux meilleurs troisièmes se qualifieront pour les quarts de finale.
Merci Élisée. Vous Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Nanit Talani toujours avec vous pour cette seconde partie de notre journal dédiée à des reportages spéciaux au Gabon, au Cameroun et au Burkina Faso, sans oublier une interview exclusive sur l'affaire de Corneille Nangaa en RDC avec Maître Charnel Yangazo. En République démocratique du Congo, les condamnations à mort de 5 partisans du mouvement rebelle dirigé par l'ex-président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Corneille Nangaa, ont été confirmées en appel à la fin de la semaine dernière. Leurs biens, ainsi que ceux de leur leader qui est absent, ont été saisis et seront vendus aux enchères. Le ministre de la Justice a précisé que cette sentence vise à servir d'exemple et que le gouvernement veillera à son application stricte dans les plus brefs délais. Eddy Issango a joint à Kinshasa Maître Charlène Yangazo, conseillère juridique de l'ONG Fondation Bill Clinton pour la paix.
Cette condamnation nous déçoit énormément, vu que la RDC venait d'être élue au sein du Conseil des droits de l'homme et que nous puissions comme ça marcher à reculons au lieu d'avancer. Est-ce que les autres pays, les autres nations nivellent vers le haut, mais apparemment, nous, sur le plan des droits de l'homme, nous nivellons vers le bas.
Mais comment s'est passé les procès? C'était plutôt un procès en appel. Est-ce que les droits de personnes qui étaient jugées étaient respectés? Comment s'est passé les procès?
Déjà que pour nombreux d'entre eux, d'entre les prévenus, n'ont pas été présents, c'est pratiquement par défaut qu'ils ont été condamnés. Et c'est-à-dire, lorsque l'on condamne par défaut, c'est-à-dire que l'intéressé n'a pas eu le temps ni le moyen de pouvoir démontrer ses moyens de défense. Il n'a pas laissé le temps de se défendre convenablement parce que nombreux d'entre eux, comme je l'ai dit tout à l'heure, étaient absents. C'est par défaut qu'ils ont été condamnés. Que ces personnes soient présentes ou pas, ce qui importe pour nous, c'est la décision finale, c'est-à-dire la confirmation de leur peine, qui est la peine capitale. En fait, au jour d'aujourd'hui, continuer à condamner la peine capitale, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est nous faire reculer sur le plan des droits de l'homme. Alors que normalement nous devrions avancer, puisque nous faisons désormais partie du Comité international des droits de l'homme.
Le ministre de la Justice qui était présent à ces procès a déclaré aux journalistes qu'il s'agissait d'un procès ou d'une sentence exemplaire et que les autorités congolaises veilleraient à ce que la condamnation à mort soit appliquée. Elle serait appliquée le plus vite possible. Quelle est votre réaction?
Nous avons suivi cette déclaration du ministre de la Justice et ça nous déçoit énormément. Pourquoi? Parce que lorsque l'on doit faire exécuter la peine de mort, c'est-à-dire que la nation congolaise, la République démocratique du Congo, devient pratiquement une nation criminelle, alors que ce pays est en train justement de vouloir éradiquer la criminalité. C'est même violer les principes sacro-saints de la vie humaine.
Nous avons appris aussi que le bien des personnes condamnées vont être saisis et vendus aux enchères, et même des personnes qui ne sont pas condamnées comme Corneille Nangaa. Quelle est votre réaction?
C'est violer les droits de ces personnes. Est-ce que les biens de ces personnes ont été mis en cause? Je doute fort. Est-ce que les biens de ces personnes avaient des liens ou impliqués dans le procès ou dans le fait leur incriminer, dans les infractions leur incriminer? Ça, je doute fort.
Maître Charlène Yangazo, conseillère juridique de l'ONG Fondation Bill Clinton pour la paix.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique en RDC sur 97.4 à Bukavu.
Au Gabon, la transition militaire au pouvoir depuis la chute du régime Bongo semble à l'épreuve de la moralisation de la vie publique. Dernier fait en date, les principaux responsables de la société de distribution des produits pétroliers et ceux de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale sont sous le coup d'une suspension. Il leur est reproché le détournement des fonds publics. Des scandales financiers qui se reproduisent sous le règne du CTRI au grand désarroi des populations. Les réactions avec notre correspondant à Libreville, Ismaël Obianzi.
Sous réserve des conclusions de l'enquête officielle en cours, l'opinion publique à Libreville s'exaspère de la prédation des ressources publiques. Au centre de ces scandales financiers à répétition, des personnalités investies de la confiance du sommet de l'État. Jean Julien est fonctionnaire du ministère gabonais des Sports.
Nous sommes un peu coutumiers un peu de ce genre de faits. Il y a des détournements qui ne datent pas d'aujourd'hui dans notre pays. Il y a eu des poursuites. On cite des gens, mais qui ne sont jamais jusqu'au bout.
Un nouveau dossier de malversation financière qui suscite des avis contrastés. Certaines voix appellent à une assignation à résidence surveillée des prévenus jusqu'au remboursement des fonds qu'ils auraient détournés, alors que d'autres militent pour leur incarcération. Jean-Victor, acteur de la société civile.
De laisser libre, dire que rembourser, ce serait une facilité. Étant en prison, ils peuvent s'engager à rembourser l'argent qu'ils ont pris parce que l'argent n'est pas lapidé, l'argent n'est pas jeté, ça, les comptes, là où ils ont laissé l'argent.
Selon Harold Makosso, commerçant, cette spirale de détournement devient presque la norme au Gabon.
C'est dans la conscience gabonaise. Enfin, ils se disent qu'ils sont là pour très peu de temps, tellement que le temps est court, donc j'ai un masque comme tout le monde. Et c'est un truc qui dure depuis longtemps. Mais...
Benoît, agent public à la retraite, reste convaincu que le comité militaire au pouvoir mettra fin à l'impunité endémique qui gangrène l'administration publique gabonaise.
Ça a tellement duré. Aujourd'hui, ça commence à payer. Quand tu es hors de la loi, tu dois aller répondre de tes actes devant le tribunal. Et ça là, je trouve ça normal. Et ça n'a qu'à continuer parce que ça va diminuer. Il y a des gens qui sont là, des diplômés, sortis des grandes écoles, qui sont en train de chômer.
Mais pour d'autres Gabonais, la lutte contre l'abus des biens sociaux est un vaste chantier qui demande 8 ans. Aude Malanda, opératrice de saisie dans une entreprise privée.
Les choses telles que la malversation financière, ce sont de gros chantiers et ça prend énormément de temps. Ce qui plus est, s'il y a vraiment enquête, ça prendra le temps qu'il faudra afin que les choses soient, j'ose espérer.
Selon de nombreux observateurs, ces détournements massifs de deniers publics au Gabon, dont les dernières révélations médiatiques ne sont qu'un bref aperçu, donnent une indication sur l'origine de la pauvreté criarde dans ce petit pays d'Afrique centrale. D'après les chiffres de la Banque mondiale, un tiers des Gabonais vivent encore sous le seuil de pauvreté. Ismaël Obianzé pour VOA Afrique, Libreville.
Cameroun, la production locale du poisson fait face à de nombreuses difficultés. Pourtant, l'aquaculture est une niche d'emploi et d'opportunités financières pour le pays. De nombreux acteurs locaux et producteurs d'aliments décrivent l'absence des financements. Les inventions locales devant améliorer l'aquaculture restent également peu vulgarisées. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Jules Ntap.
Souleymanou Houda pratique l'aquaculture à Maroua dans la région de l'extrême nord au sein d'une association de femmes. Ces dernières produisent une dizaine de variétés d'aliments destinés à l'alimentation des poissons.
On a le problème de marketing, c'est-à-dire peut-être ils ne savent pas que ce que nous fournissons à l'extrême nord. Nous aimerions qu'on ait une usine par exemple de fabrication d'aliments. De l'extérieur ça coûte tellement cher. C'est pour ça qu'on s'est formé dans la fabrication d'aliments. C'est ça qu'on nourrit. Voilà nos poissons.
Dans cette partie de Cameroun, les intrants locaux qui entrent dans l'alimentation des poissons sont pourtant disponibles, tels que les tourteaux d'arachide, de soja, de coton, la farine de manioc, le maïs et l'huile de palme. Mais la production en quantité industrielle de ces intrants bute sur l'absence de financement. Blo Oumarou, président de l'Organisation interprofessionnelle pour le développement de l'aquaculture au Cameroun, dans la région de l'extrême nord.
Sincèrement, nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Nous n'avons pas d'appui, nous n'avons pas de financement. Chacun là, c'est un pisciculteur.
L'insuffisance des intrants locaux impacte la production. Mungofish Farm est une entreprise d'aquaculture qui produit mensuellement depuis 3 ans 35 tonnes de poissons de table. Willy de Tia en est le promoteur.
Vu la production, les intrants locaux ne sont pas assez. J'espère que dans la production locale va augmenter. Vous savez déjà, le maïs est importé. Et le maïs est un élément majeur dans la production des aliments. Le blé aussi importé. Donc, parlant d'intrants locaux, si vous faites cette petite analyse, maïs importé par les poules et brasseries, par les provendiers, vous voyez qu'il n'y a pas assez d'intrants.
L'apport des technologies innovantes dans l'aquaculture au Cameroun est l'une des solutions que proposent les chercheurs locaux. Ivanès Djeni-Sogui, ingénieur agronome, présente les avantages du système intégré qui permet l'association de l'aquaculture et de l'agriculture.
On se rend compte qu'en production piscicole, on a tendance à renouveler l'eau de l'élevage par jour en vidange l'étang 2 à 3 fois pour éviter l'intoxication des poissons. On a trouvé un système qui va nous permettre d'optimiser la production et de valoriser les déchets au lieu de les verser dans la nature. Qui a pollué la nature. Dans ces déchets, on retrouve les nitrates. On a conçu un mécanisme qui va absorber ces nitrates-là et ces bactéries-là.
Sur la pêche et l'aquaculture a été présentée à l'Assemblée nationale. Elle met un accent sur l'accompagnement et l'appui à l'installation des promoteurs privés pour l'exploitation des ressources halieutiques dans le cadre de la pêche continentale, la pêche houturière et l'aquaculture. Emmanuel Junta pour VOA Afrique, Yaoundé.
Le Burkina Faso veut atteindre l'autosuffisance alimentaire d'ici à 2025. À peine la campagne agricole terminée, les grands moyens sont dégagés au profit des producteurs, avec pour objectif d'intensifier les cultures de contre-saison. Reportage à Bobo Dioulasso de Alidou et Draogo.
Nous sommes ici à Bobo Dioulasso, au siège de la Confédération Paysanne. Venus de diverses localités, les paysans sont là pour l'achat des semences et autres intrants à un coût réduit et de réduction pouvant atteindre 50%. Moumouni Savadogo, qui est le secrétaire provincial d'une structure de distribution, se veut rassurant quant à l'objectif d'une autosuffisance alimentaire en 2025.
Pour la sécurité alimentaire, on n'aurait pas beaucoup à craindre sur là-dessus. Voilà. Et puis, la campagne sèche commence à battre cette année. Il y a les producteurs qui sont trop mobilisés. Vous-même, vous voyez, les instances ont commencé à mise à leur disposition. C'est pour booster la sécurité alimentaire au Faso.
Venu de Diaradougou, à plus de 50 km de Bobo Dioulasso, Karim Bioun est producteur. Il vient de rentrer en possession de ses intrants.
C'est que l'engrais que nous venons d'avoir aujourd'hui va beaucoup nous aider. Voilà, parce qu'au lieu d'aller payer de l'engrais à 20 000 francs sur le marché, si on le trouve aussi à 12 000 francs, vous voyez, c'est vraiment un soutien, voilà, qui va beaucoup nous aider pour que la saison soit bonne aussi.
Karim Bioun nous explique comment les cultures de contre-saison vont aider les populations à manger à leur faim.
Vous allez constater à un moment donné, vous allez avoir du maïs encore sec qui va ajouter à ce que nous avons eu en saison pluvieuse. Et le riz aussi, c'est le riz de contre-saison parce que les gens pensent que le riz ici dans la province est Bahama seulement. Et pourtant, quand vous partez à Diaradougou, les gens font du riz en contre-saison.
Selon le président du conseil d'administration de la Confédération paysanne du Faso, Bassiaka Dao, cette année est particulière et les résultats vont le démontrer.
Que ce soit les semences, elles sont arrivées à temps et distribuées à temps pour permettre à chaque paysan effectivement d'avoir ses semences améliorées à temps. Que ce soit les engrais, elles sont arrivées aussi à temps pour permettre à tout un chacun d'avoir ses engrais à temps et de pouvoir continuer ses travaux agricoles. Donc nous pensons que la récolte doit être très bonne.
La production est une chose et l'accessibilité aux produits en est une autre et c'est sur cette question que Bassiaka Dao interpelle le gouvernement.
L'État va prendre ses responsabilités pour dire 1 kg de maïs, voilà c'est le coût. 1 kg de maïs coûte tant, 1 kg de tomate coûte tant, 1 kg d'oignon coûte tant, 1 kg de ceci et cela, ça coûte tant. Mais si on laisse la liberté à tout un chacun de fixer son prix, il y a d'autres qui sont des chercheurs d'opportunités, les commerçants sont des chercheurs d'opportunités.
Dans plusieurs localités, des milliers d'hectares de culture ont été dévastés par les inondations et les producteurs de ces localités entendent se rattraper avec ces cultures de contre-saison. Alidou Ouedraogo, Bobo Dioulasso pour VOA Afrique.
Nous voici au terme de cette édition du Monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Restez à l'écoute pour plus de détails et d'analyses dans nos prochaines éditions. À la présentation, Nanit Talani, à la mise en onde, Michel Joseph, à la technique, Kelvin Fowler. Passez une excellente journée. À bientôt.